Et l'heure, bonsoir à tous. Alors, première chose, désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Je propose la désignation de monsieur Antonio Muga. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues. Alors, monsieur Jean-François Leroy a donné procuration à Jean-Michel Marlot. Madame Sonia Colo m'a donné procuration. Madame Véronique Chomel a donné procuration à Marlène Thibault. Et maître Jean-Paul Montagnier a donné procuration à Georges Point. Je vous fais état de divers remerciements que nous avons reçus. Alors, monsieur et madame Fonviel, Roger, Martine, son frère Jacques et leurs enfants nous remercient pour la marque de sympathie que nous leur avons accordée lors du décès de madame Fonviel Marie-Louise. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants nous remercient pour nos marques de sympathie et d'affection témoignées lors du dossier de Zoé Baudelot. Et enfin, la section volleyball de la MJC de Jonquière nous remercie chaleureusement pour le prêt du gymnase de la commune pour l'organisation du match de Coupe de France Benjamin de volleyball qui s'est déroulé le dimanche 26 octobre dernier. Voilà. L'ordre de le compte rendu de la dernière séance qui donc et plus succinct puisque nous enregistrons désormais intégralement les séances. Je passe au vote. Qui est contre ?
Pour expliquer si vous
voulez. Ben oui, volontiers.
Alors, effectivement, les débats ont été enregistrés. Alors, même malgré les enregistrements, y a encore des interventions qui sont incomplètes. Voilà. Alors, bon, ça va finir par. Surtout la première partie du conseil, le préambule. Quoi. Voilà, c'est tout. Donc, comme on a dit que on ne perdrait pas notre temps à demander des réconciliations.
D'accord. Donc, de toute façon, j'invite tous nos administrés à visiter notre site internet pour avoir l'intégralité de la séance du conseil municipal. Donc, on votait contre le compte-rendu de la dernière séance. Madame Thibault, monsieur Arcusé, non, puisqu'il était absent. Et monsieur Mengi.
Je vais prendre le micro parce que j'aurais pu m'entendre.
Absolument. J'allais vous y inviter d'ailleurs.
Très bien. Donc, je répète ce que je disais. Malgré l'enregistrement des débats, et dans le préambule, vous avez annoncé l'enregistrement. Et on a donc indiqué que pour le précédent conseil municipal, on ne voterait pas le PV. De nouveau, il y a sur les premières interventions, avant que le débat soit vraiment phénoménal, que les différents dossiers soient présentés, eh bien, il y a encore malgré l'enregistrement, il y a encore des choses qui sont vraiment très, très incomplètes. Voilà, donc.
Dans le compte-rendu écrit.
Oui. Dans la première partie.
D'accord. C'est noté. Je passe enfin au rapport complémentaire que nous souhaitons ajouter à l'ordre du jour, qui concerne des postes d'adjoint d'animation territoriale pour le centre de loisirs. Donc je vous demande de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour ce dossier complémentaire numéro 1. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Oui, madame Thibault.
Concernant le procès-verbal, nous avons voté contre, mais vous êtes arrêté là. Y a-t-il des abstentions ? Vous êtes arrêté à contre.
Écoutez, vous faites bien. Je vois que vous suivez. Je vous en remercie, madame Thibault. Je reprends le vote.
J'ai un peu d'expérience.
Contre, donc, c'est madame Thibault et monsieur Mengi. Abstention.
On enregistre, il y a les ricaneries aussi.
C'est fait pour, madame Thibault.
Merci.
Les ricaneries de tous bords, sans viser personne. Abstention. Qui est pour je vous remercie. Donc, ce rapport complémentaire numéro 1, qui est contre l'ajout à l'ordre du jour, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et nous passons à l'ordre du jour, proprement dit, avec premier point, structure multi-accueil, modification du règlement de fonctionnement, rapporteur Émilie Lagier.
Par délibération du 16 septembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Ce dernier ayant été modifié par la délibération le 13 septembre 2012, le 4 juillet 2013 et le 23 octobre 2014. Au vu des recommandations émises par un contrôleur en action sociale auprès de la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse, il devient nécessaire de compléter le règlement. Ces modifications portent sur la constitution du dossier d'inscription. En effet, il convient d'ajouter le numéro d'inscription au répertoire pour les allocataires MSA, ainsi qu'une attestation de protection sociale pour les autres régimes, hors CAF et MSA. Par ailleurs, dans la rubrique ressources prises en compte, il convient d'ajouter pour les allocataires MSA la prise en compte des ressources déclarées à la MSA via le téléservice mis à la disposition par la CMCSA. Enfin, toute la rubrique facturation, il convient de préciser les déductions du forfait dès le premier jour et dès le quatrième jour. Vu la délibération numéro 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2012-67 du 13 septembre 2012 portant modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2013-055 du 4 juillet 2013 portant modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2014-097 du 23 octobre 2014 portant modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Vu le projet de règlement annexé à la présente délibération, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les nouveaux termes du règlement de fonctionnement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Pas de questions, alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, rapport numéro 2, Société Elior. Avenant numéro 2 au marché d'assistance technique et prestation de repas pour le service de restauration collective. Par un marché notifié le 13 décembre 2013, la commune de Camaret-sur-Aigle a confié à la société Elior les missions d'assistant technique et de prestation de repas pour le service de la restauration collective. L'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le marché est un marché reconductible pour une période de 1 an à compter de la date de notification prévue à titre indicatif au 1er janvier 2014. Il est reconductible expressément 2 fois par période de 1 an pour une durée maximale de 36 mois. La date du 1er janvier 2014 a été confirmée par la notification du 13 décembre 2013. La société Elior a informé la commune des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution de ses obligations contractuelles du fait d'une mauvaise estimation du coût de revient des repas par elle confectionné. Fin septembre, la société Elior a sollicité de la commune que le marché actuel ne soit pas reconduit en 2015. Après analyse des pièces du marché, et en particulier des conditions tarifaires, il ressort que la proposition faite par Elior en 2013 apparaît effectivement anormalement basse. Cependant, la commune, n'étant pas en mesure de lancer la procédure lourde d'un nouveau marché de restauration collective dans les délais impartis pour ne pas risquer de mettre en jeu la continuité et la qualité du service public en cours d'année scolaire, la municipalité a proposé à la société Elor de prolonger de 6 mois le contrat 2014, actuellement en cours, et ce jusqu'au 30 juin 2015. Ce délai permettra à la collectivité de préparer dans de meilleures conditions l'organisation du service de restauration collective à l'issue de cette date. Un projet d'avenant a été établi en ce sens. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de l'avenant numéro 2 au marché d'assistance technique et de prestation de repas pour le service de restauration collective, d'autoriser M. le maire à signer ledit avenant et tout document nécessaire, de dire que les autres dispositions du contrat initial, non contraires aux présentes, demeurent intégralement applicables. Donc l'avenant a été joint au dossier. Et avez-vous des questions ou des observations ? Madame Thibault.
Oui, déjà une remarque par rapport à votre appréciation concernant le rapport de présentation. Quand vous dites, donc, apparaît effectivement anormalement basse l'offre. Mais basse par rapport à quoi ? Et puis ce terme de anormalement bas désigne en général, c'est un terme qui désigne un marché infructueux, pour désigner un marché infructueux. Donc voilà la première question, parce que anormalement bas, c'est votre appréciation, à savoir que par rapport au marché, lorsqu'il y a eu le marché, donc plusieurs prestataires ont répondu à ce marché, effectivement dans la délibération que vous avez votée d'ailleurs, nous avions bien spécifié, considérant que l'offre de la société Elior a été déclarée par la commission d'appel d'offres comme étant économiquement la plus avantageuse. Ça, c'est le terme juste de ce marché. Donc, à savoir aussi que lors de ce marché, les services du Trésor public étaient présents et ont suivi ce marché qui est quand même été un marché très important avec des critères particulièrement, je dirais, pointus. Voilà, donc simplement pour dire que ce n'était pas une offre anormalement basse, parce que la société Elior a été recontactée à 2 reprises pour qu'il confirme effectivement les tarifs qu'il proposait lors du marché. Donc moi je retiens simplement que c'est une offre, enfin c'est un marché qui a été reconnu économiquement le plus avantageux. Voilà. Donc après, je ne voudrais pas que ce terme anormalement bas apparaisse dans la délibération, parce que c'est pas le terme exact. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ce qui veut maintenant, si la société Elior n'est plus en mesure d'assurer ses repas, la fabrication de ses repas aux tarifs pour lesquels ils se sont engagés et confirmés à 2 reprises. Voilà, ça c'est la responsabilité entre vous, monsieur le maire, et la société Elior, je dirais, par rapport à ce marché. Voilà ce que je voulais vous dire. Tu voulais intervenir par rapport... je te laisse.
Alors, attendez, je vais quand même répondre tout de suite à madame Thibault, surtout que votre propos me fait un petit peu bondir. Ce qui arrive aujourd'hui avec la société Elior, je n'en porte en aucune manière la responsabilité. Hein, donc je tiens à le dire. Si j'ai voté en conseil municipal l'attribution de ce marché à la société Elior, c'est au vu des documents que j'avais en ma possession. Je rappelle que je ne faisais pas partie de la commission d'appel d'offres qui a attribué ce marché à la société Elior. Mm-hmm. Je ne faisais pas partie de la commission d'appel d'offres. Mm-hmm. C'est cette commission-là qui était chargée, et dont vous aviez, vous, madame Thibault, la responsabilité, qui était chargée d'examiner la pertinence de l'offre de la société Elior. Mm-hmm. Quant au problème de l'expression offre anormalement basse, là, ce n'est pas une question de commission d'appel d'offres. Là, je pense que vous confondez un petit peu. Effectivement, la commission d'appel d'offres, il y a des critères techniques, économiques. Voilà, il se trouve que apparemment le critère économique l'a emporté sur tout le reste. Mais il se trouve que effectivement l'offre était anormalement basse par rapport au marché, à la réalité du marché. En fait, moi, ce que je vous reproche, c'est d'avoir attribué un marché à une société au dire des promesses de cette société, sachant qu'elle ne pouvait pas les tenir par rapport à la réalité du marché. Elle ne pouvait pas tenir ses promesses de coûts, de prestations. Donc elle perdait 23 centimes d'euros par repas. Et effectivement, sur le plan économique, ce n'était pas tenable pour elle. Donc je pense qu'à l'époque, on n'aurait jamais dû attribuer le marché à cette société.
Oui, mais ça, c'est votre appréciation. Mais sachez, enfin, vous sachez que nous avons quand même, c'est un dossier de marché très important. Nous étions accompagnés par les services du Trésor public. Donc ce que vous voulez dire aussi, c'est que le Trésor public aussi c'est a mal jugé cette offre, parce que nous avons travaillé avec, c'est un appel d'offres sur lequel, comme sur les gros appels d'offres, le Trésor public est présent, monsieur de Beauregard.
Le Trésor public n'est pas chargé d'apprécier la technicité, l'aspect technique.
Je crois que ce qu'il est important d'entendre, la société Elior a été contacté à plusieurs reprises, je dirais deux reprises, pour confirmer ses tarifs. Alors maintenant, vous me dites qu'ils perdaient 23 centimes par repas. Il ne fallait pas qu'ils s'engagent non plus, il fallait qu'ils révisent leurs tarifs. Moi, je ne suis pas responsable. Moi, je suis responsable des, j'étais responsable des deniers publics. Donc voilà, on me propose un tarif, on confirme à deux reprises ce tarif, voilà. Basta. Après, je vais pas prendre une autre société qui est beaucoup plus chère sous prétexte que voilà. Et je réponds quoi aux contribuables, aux usagers par rapport à des tarifs. Voilà. La société, je rappelle, la société Elior a confirmé donc lors de l'attribution, lors des deux consultations, le tarif. Voilà, je m'arrête là. C'est elle qui est responsable. Maintenant, elle ne peut plus assumer. Effectivement, elle dénonce son marché. Donc voilà. Vous le saviez depuis le mois de septembre.
J'ajoute, Madame Thibault.
Vous le saviez depuis le mois de septembre qu'elle n'était plus en mesure de.
J'ajoute, Madame Thibault. Oui, mais ce que nous voulions négocier, c'est pouvoir terminer dans de bonnes conditions l'année scolaire. C'était notre priorité.
Bien sûr. Mais j'espère qu'ils vont terminer dans les bonnes conditions.
C'est ce à quoi ils s'engagent.
D'accord. Mais les critères, enfin tout était identique pour tous les prestataires, effectivement.
Mais mal calibré. Et d'ailleurs, j'ajoute que
c'est sous la responsabilité alors de Elior, c'est pas ma responsabilité.
J'ajoute que vos services, vous avez prévenu du fait que l'offre d'Elior était anormalement basse.
Non, c'était économiquement
absolument,
plus avantageux.
Absolument, si.
Non. Bien, maintenant, concernant la commission, j'y reviens. Effectivement, vous ne faisiez pas partie de commission. Vous ne faisiez parce que vous étiez le seul élu d'opposition et qu'à ce titre-là, vous ne pouviez pas participer à des commissions. Je vais simplement faire un rappel parce que ça revient régulièrement. Effectivement, vous avez pendant 6 ans pas participé aux commissions. Ça, c'est les règles, les règles démocratiques. Simplement, je tiens à rappeler que au début de notre mandat, donc vous étiez élu, seul élu de la représentant du Front National, je vous avais invité à des commissions au début. Il y a eu, je vous le rappelle simplement, et vous vous serviez de ces commissions qui étaient des lieux d'échange et de travail pour l'utiliser à des fins, je dirais, voilà, électorales. Donc voilà, je crois qu'on avait eu un petit différent par rapport à un problème qu'il y avait eu sur un problème de grève. Je vous avais prévenu. Voilà. Simplement, je remets les choses en place. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc après, c'est la démocratie, hein, c'est la représentativité. Et ça fonctionne comme ça. En ce qui concerne, je reviens au marché Elior, vous aviez toute la possibilité en tant qu'élu de la municipalité de Camaret, de consulter les dossiers. Les dossiers n'ont jamais été cachés. D'ailleurs, vous les avez, les dossiers, vous pouvez les consulter. Ils sont dans les archives, comme j'ai laissé les archives. Voilà.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que vous m'aviez fait des cachotteries. Je vous ai dit que moi, je me suis déterminé en conseil municipal en fonction des éléments que j'avais. Comme je ne participe ni aux commissions municipales, ni en particulier à la commission d'appel d'offres, effectivement, vous ne pouvez pas me faire porter la responsabilité de ce mauvais choix. Monsieur Arcusi avait demandé la parole.
Oui, sur l'avenant, donc il est stipulé en bas de la page, les parties se sont rapprochées et ont souhaité apporter des modifications et des précisions à ce marché. Est-ce que ça concerne la qualité, la quantité de ce qui va être proposé dans les menus ? Parce qu'il n'y a aucune précision. Et sur l'article 3, il est noté, le bordereau de prix applicable sur la période sera celui révisé au 1er septembre 2014. Et nous n'avons pas d'informations sur ces révisions.
Alors, si l'avenant ne rentre pas dans les détails, c'est parce que c'est inutile de rentrer dans les détails dans la mesure où, justement, on ne change absolument pas la nature de la prestation et en particulier la qualité des repas. On a purement et simplement demandé à Elior de continuer la même prestation au même prix. Voilà. C'est pour prolonger la durée du contrat qui pouvait, à la demande d'Elior, s'achever à la fin de l'année. Et là, nous avons demandé à ce que le contrat se poursuive pour que l'on puisse terminer l'année scolaire, donc jusqu'à fin juin, au tarif en vigueur, au même tarif.
Et pourtant, il est bien marqué, celui-ci sera révisé au 1er septembre 2014. Mmh. Article 3. Qui est la même.
Donc, si ça n'a pas changé, pourquoi il est noté que sur la période, celui-ci se révisé au 1er septembre 2014
Le marché prévoyait que révisé le 1er septembre, en l'occurrence.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le prix n'a pas changé. Effectivement, il aurait pu être révisé au 1er septembre, mais on ne l'a pas fait à la demande d'Elior. Pour ne pas fragiliser un contrat qui était déjà mis à mal.
Donc vous acceptez que Elior perde de l'argent?
On demande à Elior de perdre de l'argent et de continuer à assurer le service public de la restauration scolaire, absolument.
C'est pas le problème.
Ah, mais il faut savoir ça. Il y a un peu de contradiction.
Oui, où est la contradiction ?
Est-ce que vous jugez que c'était anormalement bas ?
Ah ben ça, on n'y peut plus rien. Ça a été fait au moment de l'attribution du marché. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir continuer à rendre le service aux parents, sans augmentation du prix du repas. Alors, s'il n'y a plus de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Madame Thibault, Monsieur Mingui, Monsieur Arcuzet. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté par la majorité. Rapport numéro 3. Convention concernant le groupement de commandes pour la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'œuvre et pour le choix d'un fournisseur d'énergie. Rapporteur Hervé Auriac.
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a été engagée dès 1996 avec l'adoption d'une première directive européenne concernant l'électricité, suivie en 1998 d'une directive sur le gaz. Ces directives, aujourd'hui transposées en droit interne, définissent les délais et modalités d'ouverture des marchés nationaux de fourniture d'électricité et de gaz naturel. À ce jour, les articles L337-7 à L337-9 du Code de l'énergie fixent les obligations des acheteurs publics en matière de fourniture d'électricité et de gaz naturel. Il en résulte l'échéance du 31 décembre 2015 pour la mise en concurrence des contrats de fourniture d'électricité d'une puissance supérieure à 36 kW, tarif jaune et vert d'EDF. Selon les critères mentionnés ci-dessus, il convient de procéder à la mise en concurrence des contrats de fourniture d'électricité pour les bâtiments et équipements publics des collectivités, membres du groupement d'achat constitué. La mise en concurrence de ces contrats est relativement nouvelle et le domaine est particulièrement complexe juridiquement, financièrement et techniquement. Le recours à une équipe d'assistants en maître d'ouvrage apparaît nécessaire pour l'établissement d'un état des lieux, la rédaction de cahiers des charges, la mise en concurrence de tous les contrats d'énergie pour lesquels des économies substantielles pourraient être obtenues. C'est la raison pour laquelle la commune de Bolène, le CCAS de la ville de Bolène, les communes de Camaret-sur-Aigle, Piolenc et Vaison ont choisi de coordonner la passation du marché d'AMO relatif à l'ouverture à la concurrence des contrats de fourniture d'énergie, ainsi que la passation du marché de fourniture d'énergie. L'article 8 des codes des marchés publics dispose que des groupements de commandes peuvent être constitués entre plusieurs personnes publiques. Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du code des marchés publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, de se regrouper en vue de rationaliser les coûts de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des achats. La commune de Vaison est désignée comme coordonnateur et sera donc chargée de procéder, dans le respect du code des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations permettant de désigner un assistant en maîtrise d'œuvre pour le choix d'un fournisseur, à la signature du marché public au nom des membres du groupement et à sa notification à l'attributaire. Conformément à l'article 8 du code des marchés publics, une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée pour l'attribution du marché. Les membres sont... Pour la commune de Camaret-sur-Aigle, Mme Sylvette Gilles, adjointe au maire, en qualité de titulaire, et M. Hervé Aurillac, adjoint au maire, en qualité de suppléant. Conformément à l'article 8 du Code des marchés publics, une convention constitutive du groupement et qui définit notamment les modalités de fonctionnement de ce dernier est soumise aux communes qui souhaitent adhérer à ce groupement. Chaque membre du groupement s'engage à exécuter avec le co-contractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour le choix d'un assistant en maître d'œuvre et pour le choix d'un fournisseur d'énergie, notamment l'électricité, d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement à intervenir, d'autoriser le lancement de la procédure adaptée par les services de la commune de Vaison-la-Romaine, coordonnateur du groupement de commandes. D'approuver la constitution d'une commission d'appel d'offres du groupement pour l'attribution du marché dont les membres sont, pour la commune de Camaret, Mme Sylvette Gilles, adjointe au maire en qualité de titulaire, et M. Hervé Aurillac, adjoint au maire en qualité de suppléant.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
Une remarque, deux remarques. Sur ce groupement de commandes, bon, en fait, vous anticipez de quelques mois les obligations réglementaires qui vont s'imposer avec la fin des tarifs réglementés de vente. C'est pas plus mal d'anticiper.
Je vous l'accorde. Le dernier, c'est prévoir.
Ouais. Par contre, ce que vous n'avez peut-être pas prévu, justement, et ce qui m'étonne, c'est que donc il y a deux communes de la CCEP, Camaret et Piolenc. Moi, il me semble que, compte tenu du schéma de mutualisation qui doit être présenté par les communautés de communes à partir du mois de mars 2015, il aurait été intéressant, moi je pense, que vous associez, enfin, qu'il y ait une réflexion sur la participation aux autres communes du territoire pour participer à ce groupement de commandes, ce qui... Peut-être, parce qu'on verra, rien n'est encore acquis sur les économies envisagées sur ce type de prestations, aurait peut-être augmenté le nombre de points de livraison, de kilowattheures, et peut-être aurait permis une économie substantielle en fonction de la nature des appels d'offres qui seront faits. Voilà, donc je répète, je pense qu'il aurait été intéressant, enfin vous l'avez peut-être fait, vous allez me le dire, d'y associer les communes de la communauté de communes pour un peu, je dirais, défendre un peu notre territoire.
Alors, M. Mengui, votre remarque est d'autant plus pertinente qu'en effet, nous avons contacté toutes les communes du secteur et en particulier celles de la CCAOP. Mais il faut croire que tout le monde n'est peut-être pas aussi prévoyant que nous et que les autres communes ou groupements qui participent à ce groupement, puisqu'elles ont décliné l'offre, malheureusement. Elles n'ont pas vu forcément l'intérêt pour elle, en tout cas, de cette démarche. Donc voilà. Mais sachez qu'on a bien démarché tout le monde. Et il y a d'ailleurs des communes qui sont venues aux premières réunions, puis qui ensuite n'ont pas donné suite. Voilà, donc c'est comme ça maintenant. Nous nous retrouvons quand même avec une taille pertinente pour espérer faire des économies. D'autres, oui.
Juste, les économies, elles seront faites avant tout sur les kilowatts qui ne seront pas consommés. Hein, parce que moi, je peux vous en parler à titre professionnel. Il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes d'ouverture des marchés de l'énergie. sur une facture d'énergie, la partie qui est en concurrence, c'est de l'ordre de 40%. Le reste, c'est du réseau de distribution de transport, et ce sont des taxes. Donc il faut monter un peu les appels d'offres de façon à ce que, au moins sur le prix, il y ait un gros effort de fait. Mais ça, c'est l'appel d'offres, et c'est le résultat qui le montrera.
Je partage votre analyse. D'ailleurs, sur le plan des principes, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, si ce n'est pas l'objet de notre délibération, sur le principe de l'ouverture du marché de l'énergie, de la libéralisation de ce marché, personnellement, je pense que nous allons avoir beaucoup de déconvenues, mais qui a été voulu par l'Europe. L'Europe actuelle, en tout cas. D'autres remarques ?
De 96 et d'avant, hein, puisque les premiers qui demandaient l'ouverture des marchés, ça remonte aux années 80, et c'est ce qu'on appelle les électro-intensifs, c'est les gros fournisseurs d'énergie, comme Pechiney qui criait, qui disait il faut ouvrir le marché. Voilà. Ben, on a vu ce que ça a donné. Hein.
Voilà. Une Europe qui est pieds et poings liés au lobby économique. Y a-t-il d'autres remarques ? Alors, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4, travaux du tour de ville, phase finale, plan de financement et demande de subvention. La commune a pour projet de finaliser le programme de réfection du tour de ville engagé depuis 2011. La municipalité a lancé une étude approfondie concernant la phase finale des travaux et les principes d'aménagement. Les dernières tranches de travaux du tour de ville consisteront dans la reprise du réseau d'eau pluviale et de la voirie très dégradée sur le cours du Midi, le cours du Levant et le cours du Nord, avec poursuite d'une zone 30 km/h pour sécuriser les déplacements doux. La création d'une circulation piétonne réglementaire qui offrira aux personnes à mobilité réduite l'espace libre nécessaire à leur déplacement. Le maintien de places de stationnement. L'aménagement de l'intersection Tour de Ville rue Marie Curie. L'aménagement de l'espace environnant la Tour Sarrazine. L'implantation de végétaux en dehors des circulations piétonnes. L'éclairage approprié et réglementaire. Vu l'étude réalisée par le bureau d'études Caprime portant sur le montant estimatif des travaux pluriannuels à 709 531 € et 20 centimes hors taxes et hors réseau, considérant qu'une demande de financement peut être présentée auprès du département de Vaucluse, considérant que les amendes de police relèvent d'un financement départemental et concernent, selon les dispositions de l'article R2334-12 du Code général des collectivités territoriales, les travaux contribuant à l'amélioration de la sécurité des usagers circulant sur les voies communales, considérant que l'aide peut atteindre 60% d'un montant plafonné de travaux à 35 000 € hors taxes s'ils permettent l'accessibilité des personnes handicapées, considérant le coût non négligeable de ces travaux et les possibilités financières de la commune, Monsieur le maire propose de solliciter auprès du département de Vaucluse des avenants 2014 et 2015 de la contractualisation 2012-2014, prorogée en 2015 pour ce projet. Considérant que cette opération est éligible à un financement dans le cadre des crédits exceptionnels du ministère de l'Intérieur pour travaux divers d'intérêt local, la réserve parlementaire, vu le plan de financement prévisionnel de l'opération, alors, montant des travaux hors taxes, donc 709 531 € 20 centimes, état subvention pour travaux divers d'intérêt local 25 000 €, conseil général de Vaucluse, contractualisation 2014, 74 800 €, conseil général de Vaucluse, contractualisation 2015, 74 800 €, conseil général de Vaucluse, amende de police 2014, 21 000 €, conseil général de Vaucluse, amende de police 2015, 21 000 €, commune de Camaret sur Aigue 69,47%, 492 931 € et 20 centimes. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous, que je ne vais pas répéter, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du ministère de l'Intérieur pour travaux divers d'intérêt local pour un montant de 25 000 €, de solliciter auprès du département de Vaucluse pour les travaux du tour de ville, requalification du cours du Midi, cours du Levant et cours du Nord, l'avenant 2014 de la contractualisation 2012-2014 pour un montant de 74 800 euros, d'autoriser M. le maire à demander le versement du produit de la répartition des amendes de police 2014 réservées aux communes de 2001 à 5 000 habitants auprès du Conseil général de Vaucluse pour un montant de 21 000 euros, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. M. Arcuzet.
Visiblement, donc, cette étude est terminée. Et donc, je voulais savoir si on pouvait avoir une présentation aux élus et s'il était prévu aussi une présentation à la population, sachant que nous, on n'a pas du tout discuté lors de la commission urbanisme. Donc voilà, si on pouvait avoir accès à cette information qui est quand même très importante.
Tout à fait. Il y a une raison à cela. Il y a une raison au fait que ça n'a pas encore été évoqué en commission d'urbanisme. C'est que certes, l'étude est faite, mais, peu important, elle est soumise au conseil et à l'approbation de l'architecte des bâtiments de France, qui a été donc sollicité par le bureau d'études Caprim ces jours-ci, et dont nous attendons les réponses, en fonction desquelles, quand même, le projet peut être amendé, modifié à la marge. Mais pour des raisons de timing, vous l'avez bien compris, nous pouvons encore avoir des subventions du Conseil général au titre de 2014, donc le temps presse et nous sommes contraints à voter ce plan de financement dès aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que la concertation ne sera pas oubliée et que le projet, une fois qu'il aura été approuvé par l'architecte des bâtiments de France, sera présenté aux élus et à la population concernée très prochainement, vraisemblablement en début d'année 2015.
Donc ce n'est pas une concertation, c'est une information.
C'est une concertation, puisque tant que les appels d'offres ne sont pas lancés, les travaux ne sont pas lancés, on peut encore modifier certaines choses en fonction des résultats, des remarques des élus et de la population et des usagers. Y a-t-il d'autres questions ? Sachant que le maître mot quand même de notre projet, enfin il y a plusieurs principes, c'est conserver le même nombre de places de stationnement par rapport à l'existant, maintenir l'essentiel de la couverture végétale des platanes, ce qui sera faisable, et tout en restant dans l'esprit de ce qui a été fait précédemment, quand même, évidemment, pour des raisons de cohérence, améliorer l'esthétique de certains sites que nous souhaitons mettre en valeur. Des questions, donc, pas de questions, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, Monsieur Arcuzet, qui est pour. Je vous remercie. Alors, dossier numéro 5, réhabilitation d'un appartement situé à l'ancien centre médico-social pour y accueillir un logement d'urgence, demande de subvention auprès du Conseil régional PACA au titre du programme d'aménagement solidaire. Rapporteur Annick Guerrero.
Vu la délibération numéro 60 de la communauté des communes d'Aigues-Mauvaises de Provence du 2 octobre 2012 portant approbation du programme d'action, du programme d'aménagement solidaire et la convention du programme subséquente. Vu la délibération numéro 12-1317 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 octobre 2012 portant approbation de la convention du programme de programmation du PASS. Considérant les objectifs prioritaires du programme d'action à l'échelle du territoire intercommunautaire, communal, renforcer les centralités et l'attractivité des bourgs et des villages, maîtriser l'étalement urbain et travailler sur la restructuration des extensions urbaines, diversifier l'offre en logement, préserver l'environnement naturel et les grandes unités de paysage, soutenir l'activité agricole, dont la viticulture. Considérant que ce partenariat permet d'apporter aux communes adhérentes des moyens techniques et financiers pour soutenir des projets d'aménagement durable conçus à l'échelle communautaire, en particulier pour ceux qui y a trait à la diversité de l'habitat. La réhabilitation de ce logement participe à la revitalisation du centre ancien et répond aux critères d'éligibilité du volet habitat de ce programme, notamment en faveur du droit au logement pour tous. La création d'un logement d'accueil d'urgence répond en outre à une demande locale de plus en plus pressante, familles ou parents isolés en difficulté, relogement suite à sinistre. Le logement concerné, situé dans l'immeuble dit centre médico-social, 6 Ingrand U, il s'agit d'un appartement situé au premier étage d'une superficie d'environ 70 mètres carrés, composé d'un salon de séjour, d'une chambre, cuisine, salle de bain et WC. Considérant que le montant hors taxe des travaux subventionnal est plafonné à 60 000 euros et ouvre droit à une subvention de 30% plafonnée à 12 000 euros, majorée de 3 000 euros en cas de performance énergétique du logement type C+. Vu l'estimatif des travaux s'élevant à 65 575,09 euros hors taxe et répartis comme suit. Lot 1, maçonnerie carrelage 18 611,73 euros. Lot 2, isolation 11 034,36 euros. Lot 3, plomberie 14 560 euros. Lot 4, électricité 5 730 euros. Lot 5, menuiserie 9 671 euros. Lot 6, peinture 5 968 euros. Vu le plan de financement prévisionnel, le montant des travaux est à 65 575,09 euros. Les recettes, commune de Camaret-sur-Aigle est à 50 000 euros, 76%. Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, PAS, 15 000 euros, 24%. Donc le total est aussi à 565 000 euros, 575 000 euros, 575,09. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de M. le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur une aide financière d'un montant de 15 000 euros pour la réalisation du présent projet et ce dans le cadre du programme d'aménagement solidaire, et d'autoriser M. le maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.
Madame Thibault.
C'est une initiative que nous approuvons, hein, parce que c'est quand même nécessaire dans un village d'avoir un lieu d'accueil que nous avions et qui est devenu pour certains définitif. Hein, je pense que ça sera à contrôler dans le cadre de l'attribution de logements. Vous parlez de logements pour tous, on est tout à fait d'accord. Et vous parlez aussi d'un appartement, c'est bien l'appartement situé au premier étage.
Absolument, le premier étage. Au-dessus de ce qui était le centre médico-social.
Donc, ce qui veut dire que ce logement d'urgence ne sera pas accessible aux personnes âgées et personnes handicapées.
Il sera accessible dans la mesure du possible. Vous savez qu'au niveau de l'accessibilité des personnes âgées et des personnes handicapées, il y a une réglementation, mais ensuite il faut tenir compte de ce qu'il est possible ou pas de faire. Je ne sais pas si vous connaissez les lieux, il y a une porte sur le côté, il y a un escalier qui est accessible, qui est relativement accessible. Voilà.
Et ce titre, moi je pose la question parce qu'on doit tenir compte quand même des personnes âgées et des personnes handicapées, parce qu'effectivement, on connaît les contraintes pour les accueillir sur des premiers étages ou deuxième étage. À ce titre-là, pourquoi pas le rez-de-chaussée, réaménager le rez-de-chaussée pour permettre, d'accueillir ces personnes-là. Voilà, mais en sens ça, le projet.
Alors, ce n'est pas exclu. Pour l'instant, en fait, ce qui nous a fait, qui nous a décidé à aller dans cette voie-là et à choisir ce logement-là, c'est que ce logement, certes, il était prévu par votre équipe.
équipes comme étant dans le futur du logement social, mais pas un logement d'urgence à proprement dit. Or, nous avons eu, depuis que nous sommes élus, plusieurs cas vraiment très, 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 très douloureux, et il s'agit essentiellement de problèmes conjugaux. Et là, la dimension personnes âgées ou handicapées, pour l'instant, n'entre pas en ligne de compte, même si ça peut se produire, et à ce moment-là, nous verrons s'il y a lieu à prévoir un logement d'urgence pour eux aussi. Mais comme vous le savez, les finances de la commune sont ce qu'elles sont et nous avançons pas à pas.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ces logements d'urgence dans le cas vraiment de violences conjugales ou de problèmes conjugaux, enfin de famille, hein, c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Parce qu'effectivement, dans les phénomènes de sinistre, les compagnies d'assurance sont quand même dans l'obligation de reloger immédiatement, soit dans un hôtel, voilà, les sinistrés. Voilà.
Oui, mais alors, le temps que les assurances réagissent, malheureusement, il y a des situations de fait auxquelles il faut remédier en urgence, voilà, encore une fois.
Les élus sont là pour faire réagir rapidement les compagnies d'assurance.
Ah oui, mais juridiquement, ils n'ont pas forcément tous les moyens indispensables.
Voilà, bien pour eux, la démarche.
Monsieur Payalonga, à qui on va passer le micro. Merci.
Donc il est certain que nous aussi on approuve cette démarche puisqu'elle faisait partie de notre programme. La seule chose qui m'interpelle, c'est connaissant les lieux, c'est qu'on n'a pas prévu une réfection de la toiture. Parce que c'est vrai qu'à 15 000 euros de maçonnerie et carrelage, je pense qu'on sera un peu court. Donc voilà.
Voilà. C'est ce que vous indiquez, je pense, est prévu dans le lot numéro 2, isolation.
D'accord.
La toiture ne nécessite pas beaucoup d'intervention, en fait, apparemment.
On verra l'usage.
Oui. D'accord. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, GRDF, convention pour occupation domaniale, ayant pour objet l'installation et l'hébergement d'équipements de télé-relevé en hauteur. Rapporteur Hervé Auriac.
GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l'ensemble des canalisations assurant l'acheminement du gaz naturel vers les consommateurs. Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7e de l'article L432-8 du Code de l'énergie, GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant la relève à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels. L'hébergeur est une personne publique qui est propriétaire de son domaine public et ou privé, de sites pouvant accueillir les équipements techniques de GRDF. L'opération se déroule en deux temps. GRDF sélectionne, avec l'accord de l'hébergeur, un certain nombre de sites qui présentent des caractéristiques propices à l'installation d'un concentreur. Dans un second temps, après des démarches qui sont indiquées dans la convention d'hébergement, les sites d'installation sont définitivement arrêtés. Pour la commune de Camaret-sur-Irègue, trois sites seront proposés. La tribune du stade de football, l'espace René-Roussière et l'hôtel de ville, pour lesquels des conventions particulières seront conclues. Les coûts inhérents à la pose des équipements techniques, exception faite de ceux relevant du périmètre de responsabilité des propriétaires, sont à la charge de GRDF. Une redevance annuelle de 50 euros par site sera versée à la commune. Les conventions sont conclues pour une durée initiale de 20 ans, correspondant à la durée de vie des équipements techniques. Vu les projets de convention, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention d'hébergement pour l'occupation domaniale et les conventions particulières propres à chaque site.
Monsieur Mengui.
Une remarque. Je trouve que GRDF, compte tenu des économies qu'ils vont réaliser pendant de nombreuses années, ils ne sont pas très généreux. Parce qu'il y a quand même quelques... Quand on lit la convention, il y a quand même quelques contraintes pour l'hébergeur. Voilà, donc je comprends qu'il faille améliorer la relève des compteurs, mais enfin, ils vont faire des économies substantielles. Je trouve qu'ils ne sont pas très généreux avec, avec les communes qui les accueillent. Voilà, c'est tout.
Alors, M. Mengui, j'approuve votre remarque, mais jusqu'à un certain point. Parce que quand même, là-dedans, ce qui prime, c'est le service public, hein, la livraison de fournitures d'énergie. Et surtout, votre remarque n'est pas pertinente en ce sens que lorsque vous avez pris la même décision pour la SOR, avec le même type d'installation sur le toit de l'église, c'était à titre gratuit.
Non, enfin, je me permets de répondre.
Mais vous en prie, Madame Thibault.
La SOR a versé un montant pour le financement de l'orgue de l'église, monsieur.
Oui, enfin, c'est pas forcément lié à l'installation. Il n'y a aucune convention qu'il a prévue. Et la SOR, en tant que prestataire de la commune, de toute façon, était tout indiqué pour participer au financement de la restauration de l'orgue.
Oui, mais enfin, voilà, c'était un principe qui a servi aussi les finances de la commune.
Monsieur Arcusi.
C'est juste une explication de texte. Quels peuvent être les coûts quand il est marqué exception faite de ceux relevant du périmètre de responsabilité du propriétaire? Quels sont les risques?
Alors, au niveau du... Alors, attendez, vous êtes là. Ça, c'est simplement au moment de la pause. Il est évident que exception faite de ceux relevant du périmètre de responsabilité du propriétaire, à partir du moment où des coûts de pose sont de la responsabilité de la commune, bien entendu, ils ne peuvent pas être à la charge de GRDF. Eh bien, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Arcusi, qui vote pour ? Je vous remercie. Dossier numéro 7, acquisition de parcelles appartenant au consoeur Dianoux, rue Marie Curie, rapporteur Christine Winkelmann.
Par arrêté municipal en date du 24 septembre 2010, un alignement de fait a été établi au droit de la propriété des consorts Dianoux. Cadastré section AH54, AH56, AH57 et AH59, 6 rue Marie Curie. Il ressort de ce document la cession à l'euro symbolique au profit de la commune de 3 parcelles cadastrées section AM229 d'une contenance de 17 mètres carrés, section AM243 d'une contenance de 5 mètres carrés et section AM244 d'une contenance de 8 mètres carrés. Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L300-1 et suivants, vu l'article L112-1 alinéa 3 du Code de la voirie routière. Il est demandé au Conseil municipal d'accepter la cession à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AM229, AM243 et AM244. De décider d'incorporer les dites parcelles dans le domaine public de la commune, de préciser que les faits liés à la rédaction de l'acte notarié établi par Maître Monsagnier seront pris en charge par l'acquéreur, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Alors, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 8. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au service technique. Rapporteur, Monsieur Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet au sein des services techniques. Oui, la proposition de M. le maire de créer ce poste d'adjoint technique de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement temporaire d'activité. Un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet au sein des services techniques. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal de la commune.
Des questions ? Madame Thibault ?
Donc c'est un nouveau contrat, c'est un contrat nouveau pour l'embauche d'un agent non titulaire au niveau des services techniques pour une période de 3 mois.
6 mois.
6 mois, d'accord. Et qui occupera les fonctions à quel niveau ? Espace vert, voirie ?
Bah, il va être polyvalent et en fait, ce contrat succède à un autre contrat à durée déterminée qui a pris fin et qui n'a pas été renouvelé.
Oui, d'accord. Ok. Qui, Monsieur Roche ?
Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et notre dossier complémentaire numéro 1, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, service enfance, jeunesse, rapporteur Émilie Lagier.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que les agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement saisonnier d'activité. 6 postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe à temps complet pour le service enfance-jeunesse. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Y a-t-il des questions diverses ? Eh bien, s'il n'y en a pas, il me reste à vous indiquer la date du prochain conseil municipal, donc le jeudi 22 janvier à 19h. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.